Radio Foot International,
Antoine Grognet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Foot. Y a-t-il un pilote dans l'avion Paris Saint-Germain ? Paris censé planer au-dessus de sa rencontre de Ligue des Champions et qui a connu un décollage très moyen. Le tri-réacteur parisien Messi, Neymar, Mbappé se contente d'un nul hier soir, un partout à Bruges pour la première journée de phase de groupe. Alors il sera aujourd'hui le B de notre bureau enquête et analyse. Pour revenir sur ce crash du Paris Saint-Germain, bonjour Jean-Philippe Bouchard.
Bonjour, bonjour à tous.
Journaliste, écrivain, éditeur, mais surtout aujourd'hui avec nous dans le studio 41. Lui va pouvoir dire tout le mal qu'il pense du PSG sans qu'on le taxe de mauvaise foi. Ça change, hein Marc Libra ?
Bonjour, bonjour, je suis ravi d'être là aujourd'hui, je suis ravi.
Et puis comme on aime aussi les avions qui arrivent à l'heure, on va parler d'un avion de chasse, Sébastien Haller, supersonique contre le Sporting. L'attaquant de l'Ajax, auteur d'un quadruplé contre le Sporting. Et pour ses grands débuts en Ligue des Champions, de quoi donner le sourire à notre ami Hervé Penaud, confrère de l'équipe. Salut Hervé.
Bonjour à tout le monde, mais bien sûr là, immense sourire, parce que là, ça me fait plaisir de voir un Ivoirien à ce niveau de qualité.
On va la faire vibrer, votre fibre ivoirienne, aujourd'hui. On aura le plaisir d'avoir Patrice Baumel, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, forcément l'un des témoins les plus attentifs de la prestation d'hier soir. Maestro Salerno aux manettes, Pierre-Olivier Guérin à la baguette. Radio Foot, le coup d'envoi, c'est maintenant.
Les côtés gauche de Kylian Mbappé, l'ouverture du score, l'ouverture du score parisienne, le déboulé côté gauche de Kylian Mbappé et la conclusion dans la surface. Herrera pratiquement au point de pénalty.
1-0 sur la pelouse du champion
oui,
de Belgique.
Les Brugeois se battent au cul, la question et Egan Lisvanaken, le capitaine, l'idole des bleus et noirs, bien servi sur le côté gauche dans la surface. Et c'est mérité, le PSG et ses trois fantastiques ne peut s'en prendre qu'à lui-même.
Et si finalement Paris n'était pas si favori que ça de cette Ligue des Champions ? Un match nul contre Bruges, un partout et toutes les belles certitudes passent désormais pour des auto-certitudes face à l'adversaire a priori le plus abordable de son groupe A. Le PSG a tout simplement calé après avoir pourtant ouvert la marque par Ander Herrera sous les yeux du Hugo Moissonnier que vous venez d'entendre. Les hommes de Mauricio Pochettino se sont ensuite fait reprendre. Ils risquent de se faire reprendre encore souvent. Ander Herrera, le buteur parisien de la soirée et un des seuls à avoir surnagé, était pourtant presque content de ne pas avoir perdu.
Je pense qu'on a fait, suffisant pour gagner des matchs. On n'a pas joué un match fantastique, mais suffisant pour gagner les matchs. Mais on a manqué des occasions claires. Et ça, c'est pourquoi on n'a pas gagné. Parce que je pense qu'on a, eu le contrôle des matchs. Et peut-être au début de la deuxième mi-temps, ils ont créé un peu des occasions contre nous, mais je pense que la majorité des matchs, on a contrôlé les matchs, on a créé des occasions, mais c'est la Champions League, ils sont un gardien très bon aussi et on a un poids pour commencer la compétition.
Ander Herrera, Jean-Philippe, Paris a-t-il perdu son statut de favori après cette performance ?
Il est un peu tôt pour le dire pour l'instant. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont vraiment, c'est très mauvaise entrée en matière dans la compétition parce qu'ils ont un groupe qui est quand même difficile. Leipzig, ça va être pas facile à battre. Et puis, Space City, lors de la prochaine journée. Donc, ils commencent très mal. Après, on va en parler en détail, mais que cette équipe doive se mettre en place pour le plus haut niveau, ça aussi c'est un peu attendu aussi. Maintenant, on pensait que par rapport à Bruges, il y avait plus de marge que ça quand même. Là vraiment c'est quand même un gros raté.
C'est plus qu'un gros raté même, Marc.
C'est assez prévisible. Hein. C'est pas nouveau de savoir que Kylian Mbappé, que Neymar, que Messi ne veulent pas défendre. On ne découvre pas quelque chose en se disant, hier soir, les commentaires, certains sont surpris. Ah, mais ils font pas les efforts défensifs. Ah, ben ouais, mais c'est pas nouveau quand même. Et on nous dit, oui, mais avec Messi, ça va tout changer. On va préciser que Messi démarre touche droite, à l'opposé. C'est-à-dire que mettre Messi à son âge sur un côté pour essayer de faire la différence, pour servir Kylian Mbappé, je sais pas, c'est assez particulier. Donc, on a vu que quand Icardi, un vrai neuf, rentre en place, Messi se remet un petit peu derrière. Et là, on commence à retrouver un petit peu les accélérations et les fulgurances de Messi. Après,
On voit bien que Paris choisit encore ses matchs, que dès l'entame de match, pendant la préparation, pendant l'échauffement, pendant l'hymne, bon, ils sont pas là, ils sont pas en vie, ça ne les intéresse pas. Et pour moi, Kylian Mbappé sort du match tranquillement parce qu'il se dit c'est une galère et j'ai pas envie de rester dans cette galère, clairement. Et alors on me dit non, mais il a mal au pied. Ouais, enfin, à un moment donné, il faut arrêter, il faut être très sérieux. Et malheureusement, ces joueurs-là ne sont pas sérieux.
Hervé, Paris a pris son adversaire de haut, peut-être ?
Moi, c'est bizarre. Moi, c'est une théorie que j'ai du mal à comprendre. Moi, je pense simplement, vous savez, parfois, c'est pas aussi simple que ça. Alors, déjà, il y a un adversaire, parce que c'est bien, mais chaque fois, on a l'impression de faire passer les adversaires pour des pitres. C'est quand même des joueurs de foot aussi de haut niveau, qui sont capables parfois de se sublimer, de se transcender et d'offrir une performance assez hors norme, hein, dans leur calibre, évidemment. Un peu comme un match de coupe. Moi, je pense que la difficulté pour ce Paris Saint-Germain-là, alors là, on dit que c'était le favori. Moi, pour moi, ça n'a jamais été le favori, pour tout vous dire. L'un des favoris, évidemment, quand vous avez fait finaliste et demi-finaliste l'année dernière, il y a deux ans, évidemment que vous faites partie des équipes qui peuvent gagner cette coupe-là, mais pas plus favori que City, que le Bayern, etc., etc. Donc vous êtes là, et puis vous avez l'arrivée de Messi qui donne un peu au recrutement parisien, évidemment, ce visage flamboyant. Maintenant, la difficulté, évidemment, ça va être faire jouer les trois joueurs ensemble. Mais ça, on le savait depuis le début. En plus, avec un milieu de terrain qui était un peu dépeuplé, là, il vous manquait Idrissa Gueye, ouais, qui est capital, à mon avis, dans cette équipe-là. J'ai toujours dit, j'ai souvent insisté sur son rôle.
Verratti,
et Verratti, oui, qui est celui qui, techniquement, a la capacité à justement donner les balles un petit peu aux attaquants. Donc, il va falloir trouver un collectif qui puisse fonctionner. Parce que l'histoire de dire, ils voulaient pas, c'est, je suis sûr qu'Mbappé, s'il peut mettre 4 buts hier contre Bruges, il les met. Parce que lui, les stats, c'est capital pour lui. Donc, je crois pas du tout à l'idée de se dire, oh là, je sens que ça va être la galère, j'y vais pas. Parce que Mbappé, s'il était resté jusqu'au bout, je pense qu'il aurait fait mal aussi au joueurs de Bruges. Parce qu'on a senti que les Belges, à la fin, ils étaient quand même cramés bouillis face à Mbappé. C'est toujours compliqué de défendre. Donc, non, moi, je crois que pour l'instant, collectivement, ça fonctionne pas, comme ça fonctionnait pas à certaines époques. Maintenant, c'est à eux de se mettre en route, hein, j'allais dire.
Marc, j'entends ce que tu dis, mais ils font preuve de suffisance. Tu le vois, Mbappé ne fait pas les efforts. Le seul effort de Neymar pendant la rencontre, c'est quand il va aller charger Nsoki, il a fait la première accélération. Mais on le sait dès le départ, au bout de 20 minutes, que ça va être le mauvais Neymar qui a pas envie de jouer, qui ne fait pas les efforts.
Bah, bizarrement, sur le stade, c'est le joueur qui a le plus couru au PSG, et qui a fait le deuxième qui a fait le plus de sprint après Hakimi. Bizarrement.
Ils ont 10 kilomètres de moins par rapport à l'équipe de Bruges. Tu fais pas les efforts, tu ne défends pas. Il y a des moments sur la première période où les défenseurs passent, ils se poussent, ils se lèvent. Donc à ce niveau-là,
après tu me dis, tu vas pas me dire qu'Hakimi, qui est quand même un bon joueur, mais qui a des défauts parfois défensifs.
Mais tu les as vus, il y a les défauts dans le dos. Tu les as bien vus, les défauts.
Hakimi, je connais parfaitement Hakimi, je connais ses forces, ses faiblesses, et effectivement qu'il a ces défauts-là. Donc il va falloir que collectivement on trouve justement quelque chose qui fasse qu'à un moment ça fonctionne. Oui. C'est pas dit qu'ils trouveront.
Mais c'est la facilité de dire, c'est la facilité comme maintenant de me dire, ah non, mais il y a pas Verratti. Qui joue à sa place?
J'ai pas dit qu'il y a pas Verratti. J'ai pas dit ça. Au contraire, j'ai dit que moi c'est purement collectif.
Si tu m'expliques qu'il y a pas Verratti et il y a pas Gueye, ok, tu as raison.
Oui,
tu as raison. Tu as raison. Mais tu as quand même Wijnaldum, Paredes.
Mais,
donc, ils sont des très bons joueurs qui, malheureusement.
Mais qui n'ont pas été au niveau hier.
Mais qui n'ont pas été au
niveau. Mais ils ne sont pas au niveau parce qu'ils n'ont pas envie.
Mais non,
on peut
pas
me dire.
C'est
spécialement.
Alors, tu penses que c'est spécialement. Non, mais moi, je trouve que c'est trop souvent facile et réducteur de dire, les joueurs ne sont pas bons parce qu'ils n'ont pas envie. Parfois, tu peux avoir envie de courir.
L'attitude, tu l'as vu, l'attitude. Tu l'as vu, l'attitude.
Tu es
l'attitude des joueurs, tu l'as vu.
Tu sais ce que c'est. Parfois, tu as envie de courir. Et entre guillemets, tu ne peux pas. Parce que comme l'équipe est tellement non, mais je vais t'expliquer. Comme l'équipe est tellement déstructurée que les efforts que tu fais ne servent à rien. Et donc au bout d'un moment t'oses plus et c'est quasiment on est inhibé et ça fait qu'on arrive à avoir des joueurs pourtant de haut niveau qui savent plus
Herrera nous annonce que c'est le meilleur joueur. Oui, c'est le meilleur joueur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu compenser Pierre par Paul par il a fait que ça, il a compensé partout et c'est le seul joueur qui fait les efforts. Et c'est Munoz qui rentre à la fin, latéral gauche, c'est ça, le défenseur. Et donc oui, il se met à courir, il accélère et là on dit il a joué 12 minutes, il a accéléré parce qu'on l'a vu courir.
Mais Kimi aussi accélère.
Je suis d'accord avec Hervé sur le fait qu'il faut qu'ils se trouvent collectivement. Est-ce qu'ils y arriveront? On ne sait pas. Mais toute proportion gardée, bon, c'est pas les mêmes matchs et tout, mais ça ressemble un peu avec l'équipe de France, avec la meilleure attaque du monde. Ok, tu mets les trois meilleurs attaquants de la Ligue des Champions ensemble, on va dire, ou quelque chose comme ça, c'est super. Mais après, on fonctionne comment? Et on voit bien que pour l'équipe de France, finalement, ça a fini par marcher contre l'Ukraine, avec le même schéma tactique que contre la Suisse, où c'était une catastrophe. Donc voilà, c'est du foot, c'est compliqué. Et là, ils sont au début de la saison, donc c'est pas encore grave. Par contre, ils sont mis un gros sépine dans le pied en marquant pas les,
en gagnant pas ce match-là. On est quand même habitué à voir cette équipe de Paris qui jauge pendant ses matchs de poule, qui choisit ses matchs. On le sait, c'est pas nouveau. Mais ils choisissent leurs matchs.
En général, en match de poule contre les adversaires faibles, ils les atomisent. En général, ils sont toujours présents. Les seuls matchs qu'ils ont perdus, alors c'est vrai que l'année dernière il y a eu souci, mais sinon en général, ils sont toujours présents contre les petits adversaires. Et on dit d'ailleurs souvent, de toute façon, c'est pour le PSG, c'est les adversaires faciles, c'est le premier tour, etc., etc.
Antonio Conte, le champion d'Italie avec l'Inter, qui est maintenant consultant pour la télé italienne, disait que n'importe qui aurait des problèmes pour trouver des équilibres une équipe comme celle-là. Elle est mal pensée, cette formation, Marc ?
C'est pas qu'elle est mal pensée, c'est qu'à un moment donné, Messi... On peut jouer pour Messi automatiquement. Le problème, c'est que maintenant, il faut jouer. Parce qu'on a vu, ça part d'une bonne volonté, c'est vrai. Souvent, Mbappé a essayé de trouver Messi. Messi a essayé de trouver Mbappé. Ça a failli marcher une fois sur un superbe extérieur. Mbappé trouve...
Mignonnet
sur sa route. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un minimum de travail de repli défensif. On ne peut pas, sur un bras roulé... ou sur une transversale, ou sur une passe de 20 mètres, avoir trois joueurs qui n'existent plus. Parce que là, on peut avoir les Verratti, les gars qu'on veut, ils vont compenser, mais ils vont prendre l'eau. C'est ça le gros problème. Donc aujourd'hui, les trois de devant ne font pas les défauts offensifs, et il va falloir trouver la solution. Et est-ce que Pochettino, à la mi-temps, parce que normalement, à la mi-temps, on voit, là, on s'en est pris un ou deux joueurs, ok, ils sortent, très bien, mais... est-ce que Pochettino est capable de dire à Messi, Mbappé, Neymar, vous pouvez défendre, s'il vous plaît ?
Ben, on va l'écouter d'ailleurs, Mauricio Pochettino. Justement, il en a parlé de ça, et vous allez voir que il est peut-être le seul à avoir cet avis-là sur la planète.
Non, creo que el problema no ha sido en este caso los tres jugadores en ataque.
Je ne pense pas que le problème vienne des trois joueurs offensifs. On doit être plus costaud dans tous les secteurs du jeu, mais je suis plutôt content du travail défensif de mes attaquants. Pour ce qui est des combinaisons entre les joueurs offensifs, ils ont besoin de jouer ensemble et pas seulement à l'entraînement. Ils ont besoin de se connaître, de se voir et de se comprendre. Je pense avoir vu de bonnes choses, de bonnes situations, mais je ne pense pas que le problème vienne de là. On n'a pas été suffisamment solide pour un match de Ligue des Champions. La seule chose qui nous manque, c'est du temps pour trouver la bonne formule.
Et la capacité d'encontrer cette formule.
Jean-Philippe, c'est quoi ? C'est de l'aveuglement, de la mauvaise foi, de la politique ?
C'est la déclaration convenue qu'il doit faire à la sortie d'une contre-performance. Après, il a pas c'est l'entraîneur du PSG, il sait exactement quels sont les problèmes. Donc, il y a évidemment la question de l'animation collective, on vient d'en parler. Et puis, aussi, c'est sûr que le rendement de ses attaquants doit être supérieur. Voilà. Est-ce que c'est possible pour l'entraîneur du PSG aujourd'hui de critiquer publiquement ces trois stars? C'est peut-être pas tout de suite.
Non, faut être logique. À un moment, il est obligé de faire attention. Lui-même, il sait qu'il est moins important que ses joueurs. Tu sais, dans le foot moderne, il y a combien d'entraîneurs qui sont entre guillemets plus importants que leurs joueurs ? Allez, je mets une Guardiola à Manchester City qui est capable pour être faire ce qu'il veut et personne ne lui dira rien.
Il y a Mourinho, une époque, qui gagne la Ligue des Champions.
Mais il n'empêche qu'il est pas, il a quand même pas été trop bousculé après sa défaite. Vous aviez une époque, peut-être encore aujourd'hui à Rome, certainement Mourinho, mais dans un grand club, pas certain. Vous savez, il y en a très peu.
Giroud à Auxerre.
Oui, ça c'est sûr. Mais Pochettino, il voit arriver Messi, il sait que Messi est plus important que lui. Vous avez pas l'imaginer pour sa première conférence de presse après trio, la première du trio, dire ah ben non, mais je pense que franchement ça fonctionne pas. Lui, il est entraîneur, il sait très bien que ça lui demande du travail, du boulot. Ils ont quasiment jamais joué ensemble, même à l'entraînement. Les trois. Donc il y a un moment, il faut bien aussi les laisser travailler. Le seul souci que moi j'ai, c'est pour ça que j'ai toujours pensé par rapport à l'histoire de favori, ça me gênait un peu, c'est que je suis un peu comme Conte. C'est pour ça que la phrase de Conte, je la trouve intéressante. C'est que lui, Conte, c'est un grand entraîneur. Il sait que c'est pas aussi simple que ça de dire à des joueurs de ce calibre-là, défendez. Il y en a un qui défendra pas, c'est sûr, c'est Messi. On le sait, il l'a jamais fait, il va pas le faire aujourd'hui à 34 ans. Il en a pas les capacités physiques, déjà, faut le savoir. Deuxième, qu'il va falloir faire travailler comme ça va être Mbappé. Mais si Mbappé voit pas Neymar travailler, voit pas Messi travailler, c'est pas simple non plus. Mais Mbappé peut-être un peu plus le comprendre pour le statut stat, etc. Sait-on jamais. Neymar, il est entre le deux, parce que Neymar, il peut travailler un peu plus, parce que lui, il est un peu énervé qu'on lui prend la balle, donc il est capable de faire quelques replis défensifs. Mais ça veut dire que ces trois-là, il va falloir arriver à trouver un lien. Peut-être qu'il y arrivera pas, tout simplement. Et peut-être qu'elle a effectivement mal fagoté l'équipe, ce qui fait que vous pouvez avoir des grosses lumières dans votre équipe, et puis ne pas gagner. N'oubliez jamais oublier que le Chelsea qui a gagné la Ligue des Champions était le moins bon de Chelsea, que Chelsea, l'année dernière, qui gagne encore la Ligue des Champions, champions n'était pas le meilleur, et que vous avez eu City qui avait fait une année en première ligue où ils gagnaient tout quasiment, ils ont fait plus de 100 points, et ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. C'est, parfois, ça se joue à très peu de choses.
Marc, je vous vois bouillir.
Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce genre de discours, automatiquement, on va perdre des joueurs dans le groupe, c'est tout. Parce que on se met à la place.
Moi, parce que tu penses que dans le groupe, il dit la même chose. Tu penses que dans le vestiaire, il dit la même chose que ce qu'il dit aux journalistes. Bah, j'espère pas, non, quand même.
Les joueurs écoutent ce que l'entraîneur dit dans les médias.
Excusez-moi, mais tu le vois à la fin du match aller gueuler sur Neymar, Messi, Mbappé?
Non,
pas du tout.
Pas gueuler.
Donc, automatiquement, les joueurs qui sont les porteurs d'eau, parce que là, tu vas avoir des porteurs d'eau, et il y en a beaucoup, ils entendent ça. Ah non. Attends, mais il nous prend pas. Parce que les mecs, ils ont pris la foudre, hein. ils ont pris la rafale, ils les ont pris. Donc, ce que j'aurais aimé, c'est qu'un Ramos soit là et qu'il commence à mettre un peu des claques. Au moins, c'est clair. Parce que c'est pas possible. Tu peux pas être défenseur central, tu peux pas être 6. Parce que même si Agaï et Verratti, s'ils vont y arriver les vagues, ça va les faire rire.
Mais
ça ne fera plus rire. Donc, quand l'entraîneur te dit ça.
Mais il n'y a pas question de rire. Rappelle-toi.
Non, je sais.
Mais quand Agaï est expulsé contre Manchester City, tu te souviens de l'action? Il va faire un pressing sur l'un, un pressing sur l'autre, etc. Et il y a une caméra cachée, ou caméra du stade, qui le montre en sortant et insultant légèrement ses équipiers. Il avait raison, parce qu'il était le seul à courir. Évidemment,
c'est ce qui va se passer. Donc, quand tu fais ce genre de déclaration, tu mets quoi qu'il arrive, tu fous un petit peu de bordel dans ton vestiaire.
Et en même temps, à chaque journée suffit sa vérité. Contre City, il y aura peut-être des espaces plus facilement, ils vont avoir plus de temps de jeu ensemble. Là, ils ont fait que 19 passes, je crois, les trois entre eux, hein, sur tout un match. C'est quand même pas beaucoup.
Le football, c'est pas ça.
Non, mais oui,
c'est pas 19 passes.
C'est aussi chacun d'entre eux peut quasiment gagner le match à lui tout seul. Donc, il y a ça aussi, c'est un paramètre. Oui. Et les porteurs d'eau, comme tu dis, le savent.
Ah, bien sûr.
Tous les gars derrière, ils préfèrent jouer avec Messi et Neymar et Mbappé devant.
Voilà. Hier, ils ont pris la foudre tous.
Non, mais c'est pas ça qui fera la chez le groupe, oui. Aussi vite en tout cas.
Et l'année dernière, si je ne m'abuse, les Chelsea ils perdent bien leur premier match en entrée de Ligue des Champions. Ça, attendez, on va pas faire être définitif sur le premier match. Je pense que Wijnaldum, qui a une expérience du très haut niveau, qui est quand même importante,
il
est pas en train de se dire.
Qui a été très bon à l'Euro.
Bah, oui, il est pas en train de se dire, putain, mais si, il commence à m'énerver après
contre
un match.
Clermont aussi, il était bon contre Clermont. Contre Clermont, il était bon aussi.
Le problème, c'est que c'est pas Clermont. Ça avance dans 15 jours. Il y a City qui arrive. Ça vient très vite.
Ça va être dur. Il faut pas croire parce que vous avez ces trois joueurs-là. Ça va être facile. Ça va être très dur pour Pochettino. Est-ce qu'il a les capacités à le faire? Puis même, un entraîneur a les capacités à le faire. Je sais même pas. Couturol, il pouvait pas, par exemple. Bon, Emery, on avait vu, il pouvait pas, avec un autre effectif, mais il pouvait pas. Et donc, ils ont été en difficulté parce que ils pouvaient pas appliquer ce qu'ils demandaient. D'ailleurs, Tuchel, le pressing, par exemple, qu'on voit de Tuchel à Chelsea, on l'a jamais vu au PSG. Vous avez vu une marque Tuchel au PSG?
Mais
le seul équipe qu'on a vu avec une marque, c'était celle de Laurent Blanc. Laurent Blanc, il y avait une touche Laurent Blanc. On voyait exactement comment il voulait jouer.
Tuchel, il était même pas au courant quand Neymar arrivait à l'entraînement ou pas. Donc,
c'est ennuyeux.
Paris sera prêt pour affronter City.
J'espère pour eux. Après, ça sera soirée de lumière. Ah mais
c'est sûr. On va que tu joues.
Donc tu me dis qu'ils choisissent pas leur match. Oui, je peux t'assurer que l'investissement sera différent et que comme c'est City, finalement on va mettre le bleu de choix. On va essayer de jouer. Et hier soir ils sont pas rentrés avec le bleu de choix. Hier soir ils sont rentrés tranquillement. Ça rigolait.
Ils font un bon début de match. Hein.
Ouais, 10 minutes.
Oui,
et tu te rends compte une nouvelle fois que dès que l'équipe ne les respecte pas dans le bon sens du terme,
ça veut dire qu'ils sont pas rentrés mal. C'est pas qu'ils sont pas rentrés en disant on s'en fout. Parce que les meilleurs moments de leur match, c'est les 10-15 premières minutes.
Le but qu'ils marquent, c'est juste sur une accélération une nouvelle fois de Mbappé qui fait la différence. Mais après, ça s'arrête là. Et puis après, ils ont décidé de leur marcher un peu dessus, encore une fois, dans le bon sens du terme. Et c'est ce que n'aime pas Paris, puisque Neymar va commencer à vouloir protéger, à garder le ballon, à aller chercher les adversaires. Il prend son carton. À un moment donné, mais c'est répétitif, c'est chaque année c'est la même chose. Et puis à un moment donné, en huitième, on apprendra que on n'était pas bien préparé, on ne savait pas cela.
Ils sortent quand même de demi et finale. C'est pas une équipe qui est à la rue totale.
On ne dit pas qu'ils sont à la rue, c'est
pas un match maîtrisé, que le score est à peu près.
Tu rencontres Bruges, tu dois tout faire.
Mais si met sa barre, s'il met dedans, enfin voilà, c'est du foot aussi. Il faut éviter de tirer des conclusions définitives. On va voir comment ça va tourner, mais
évidemment.
Après, c'est vrai que par exemple, le Real des Galactiques, une fois que Makelele est parti, ils ont rien gagné. Le ciment, c'était Makelele. D'ailleurs, Zidane le savait très bien quand il est revenu en équipe de France. Il a demandé à ce que Makelele revienne.
Dernière chose, c'est pour ça
que moi je pense que le ciment c'est Gay.
Ou Makelele qui doit revenir.
Makelele, c'est un peu Gay.
Plus sérieusement, depuis le début de la saison, à part Clermont, ils ont toujours pris des buts, le PSG. C'est-à-dire qu'ils sont friables de partout. Tout le temps. Ils ont pris des buts à tout le temps, sauf Clermont.
Sans jamais avoir joué avec les trois.
Mais heureusement qu'ils jouent pas les trois, parce que moi, ils en auraient peut-être plus, pris plus.
Donc ça prouve que...
Non, mais, je peux t'assurer que peut-être qu'ils en auraient pris plus, hein. Non, mais sérieux, hein. Je le pense
vraiment.
Ils
vont pas descendre en Ligue 2, quand même.
Mais j'ai pas dit ça. Je dis juste qu'à un moment donné, il y a 11 joueurs, il faut que les mecs travaillent. Quand t'en as 3 qui travaillent pas,
ils ont gagné quand même leurs 5 premiers matchs.
Les commentaires, non, mais bien sûr.
Il faut pas non plus.
On est d'accord. Les commentaires ont été très sympas. Je pense qu'ils auraient pu dire que si les 3 ne travaillent pas et font pas l'effort, à un moment donné,
les commentaires, on peut être sympas. Si, t'as trouvé que les commentaires étaient sympas?
Non, c'est sévère, c'est normal.
C'est normal.
J'ai pas dit que c'était pas sévère ou pas.
Juste après, on peut observer, on va observer attentivement ce qui va se passer, parce que ça peut. Moi, je suis d'accord.
Il va rien se passer. Tu sais bien que les trois font, ils décident ce qu'ils veulent, et s'il y a problème, ils appellent le prince.
Oui, sauf
qu'ils
sont
le prince, et voilà. Et Pochettino, il dit rien.
Sauf qu'ils connaissent le foot, ils savent aussi que s'ils veulent gagner, ils ont besoin de respecter aussi les consignes de l'entraîneur. Donc,
j'ai respecté avec n'importe quel entraîneur.
J'ai l'impression que t'es en train de parler de trois joueurs lambda. Là, on parle de trois monstres absolus. Messi, il y a qu'une obsession, c'est de gagner la Ligue des Champions. Neymar, gagner la Ligue des Champions. Mbappé, gagner la Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont comprendre qu'il faut faire de temps en temps quelques efforts. Ils sont pas... Et en plus, ils l'ont gagné déjà pour certains, deux d'entre eux. Donc, quand même.
Bon, un petit mot de l'adversaire, oui. Le futur adversaire du Paris Saint-Germain, Manchester City, donc en Ligue des Champions. Hier soir, ils ont joué au tennis contre Leipzig. Ils ont gagné le premier set, 6-3. On retient quoi de cette performance? Les 6 buts marqués ou les 3 encaissés, Hervé?
Ah, c'est marrant, ça tient. Bon, allez, moi, je préfère toujours la bouteille à moitié pleine qu'à moitié vide. Donc, je vais mettre en avant les 6 buts. Être capable de marquer 6 buts dans un match de Ligue des Champions contre un adversaire quand même de haut niveau, même si c'est peut-être pas le Leipzig l'année dernière. Pour l'instant, il va falloir qu'ils se rôdent un peu. Plus le même entraîneur. Ils ont perdu quelques joueurs importants. Bah, il n'empêche que mettre 6 buts à ce niveau de compétition, c'est fort. Maintenant, c'est vrai qu'il faut pas oublier ces 3 buts encaissés parce qu'on va se retrouver dans la configuration PSG.
Ouais, et le moment où ils ont été encaissés. C'est-à-dire qu'en fait, ça a permis de revenir dans le match. Hein, c'est pas été le score a l'air d'être un chaos en fait, mais c'est pas complètement, pas du tout en fait. Ça s'est fini comme ça, mais à chaque fois c'était des buts qui ont permis de recoller, et ça prouve que City a pas été aussi dominateur que le score pourrait laisser paraître.
Ouais, je te rejoins, pas dominateur, mais par contre ils ont jamais tremblé. Quand tu suis la rencontre, tu dis bon, mais t'es pas inquiet pour eux parce que ça continue. Alors oui, c'est friable. Oui, ça prend des buts. Par contre, ça continue à attaquer, ça attaque. Et c'est du football plaisir. Donc c'est bien. Après, moi, je valide pour voir tous les week-ends Paris qui met 6-3, 6-4. Mais au moins, on peut s'éclater. Donc c'est, voilà. Donc après, c'est autre chose. Mais je trouve qu'on les a jamais sentis forcément en danger. On revient sur Paris hier soir. Alors on voit que Bruges, à 10 minutes de la fin, ils n'ont pas fait de changement, c'est compliqué. Mais on sent qu'il peut se passer. Ah, on est inquiet. Alors que là, City, on n'est pas forcément inquiet par rapport aux joueurs qu'il y a.
On a vu d'ailleurs une grosse différence d'attitude entre les entraîneurs, avec Mauricio Pochettino qui a un peu tiré la tronche pendant toute la rencontre, et au contraire, un Josep Guardiola qu'on a vu engueuler, il n'y a pas d'autre mot, Riyad Mahrez, qu'on a vu replacer Jack Grealish qui a pourtant coûté plus de 100 millions à son club. De ce point de vue-là, Jean-Philippe, l'entraîneur a plus les manettes à Manchester City.
Ce que disait Hervé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a deux entraîneurs qui ont des statuts complètement différents en club. Il y en a un qui est quasi inamovible à City, Guardiola, bah voilà, c'est le pape, il bougera pas. Il peut se permettre, alors c'est le roi de la com aussi, hein, il sait très bien ce qu'il fait. Quand devant les caméras, il recadre Mahrez, il sait très très bien le message qu'il va faire passer à tout le vestiaire, au monde entier, enfin voilà. Mais le message qu'il fait passer, c'est effectivement que c'est lui le patron. Voilà. Et Pochettino ne peut pas se permettre ça, effectivement, malheureusement. Après, il a d'autres atouts sur lesquels s'appuyer. C'est-à-dire que lui, il va bosser tactiquement, il connaît ses joueurs, il va essayer de les mettre dans les meilleures dispositions. Et si ça fonctionne, il va asseoir son autorité comme ça. Mais c'est sûr que c'est pas sur la réputation, sur le nom qu'il va en imposer à Neymar ou à Messi.
Et puis la grande différence, c'est que lui, il prend Grealish pour 100 millions d'euros, mais c'est lui qui le décide. Donc Grealish, il n'est rien à côté de Guardiola. Quand il prend Riyad Mahrez à Leicester, Mahrez, entre guillemets, quand je dis il n'est rien à côté de lui. C'est-à-dire que c'est un joueur lambda qui peut mettre sur le banc.
Ils lui doivent énormément parce que, mon gamin, tu viens, tu coûtes tant, mais c'est moi qui te fais venir. Ne l'oublie pas. Et ça, c'est important.
Mais tandis que quand vous prenez Messi, c'est Messi qui accepte de venir. C'est plus pareil. L'entraîneur, il est là, on lui dit, vous allez voir Messi, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc c'est Messi dit oui, Messi dit non, mais c'est Messi qui décide.
Et le PSG va communiquer sur les ventes de maillots, les réseaux sociaux, et voilà. Donc c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans la même stratégie.
C'est le même rapport de force.
Ça ressemble beaucoup à ce qui a été fait il y a 10 ans avec Beckham, en fait.
Oui, bien sûr.
C'est aussi ouais, ça c'est qui est recherché, même si on a un joueur qui est quand même
plus. Puisqu'on a parlé un peu tiroir caisse, on va parler d'un joueur qui coûte pas cher, mais qui peut rapporter gros.
Et le premier but de cette soirée, il est pour l'Ajax et pour Sébastien Haller. Et le deuxième but pour Sébastien Haller.
Anthony,
l'extérieur vers Haller et qui lui va mettre ce ballon au fond des filets. Le triplé pour Sébastien Haller. Le ballon pour Haller, le quatrième pour Sébastien Haller.
Bon, lui n'est pas un prétendant au titre final dans cette Ligue des Champions, quoique s'il poursuit sur ces bases-là, difficile de savoir où il pourra s'arrêter. Sébastien Haller, l'attaquant ivoirien de l'Ajax, auteur d'un quadruplé contre le Sporting Portugal, victoire 5-1 des Ajacides, et Haller qui égale au passage un certain Marco Van Basten, ballon d'or s'il vous plaît, en devenant le premier joueur à réaliser un quadruplé pour ses débuts en Ligue des Champions. Mais Haller, lui, il mettait surtout en avant le travail, le succès collectif.
Si j'ai pu marquer 4 buts, c'est en grande partie grâce à l'équipe. Je suis très content pour moi et pour eux. Pour un premier match en Ligue des Champions, marquer 4 buts à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose à part. Je n'y crois toujours pas.
Bonjour Patrice Baumel.
Bonjour à tous.
C'est le sélectionneur de la Côte d'Ivoire et donc de Sébastien Haller. Merci d'avoir accepté de participer à ce Radio Foot International. On lui a tressé des lauriers, en tout cas je lui ai tressé des lauriers, ça viendra pour les autres. Est-ce qu'il vous a impressionné hier soir, Patrice ?
Oui, je pense, crevé l'écran dans sa présence, surtout si on retire les 4 buts, c'est surtout dans sa présence dans la surface de réparation, dans sa mobilité. Mais aussi, ce que j'ai pu observer au-delà de ces 4 buts, c'est qu'il est toujours dans un collectif, c'est-à-dire qu'il se rend toujours disponible lorsque son équipe a le ballon, lorsqu'elle récupère le ballon dans la transition, mais aussi à la perte où il est toujours le premier défenseur. Donc c'est vraiment un élément très précieux pour l'Ajax, mais aussi pour nous, les éléphants de la Côte d'Ivoire.
C'est un joueur qui a déclaré à nos confrères de SoFoot, offrir une passe décisive ou bosser pour les partenaires, voir que ton pressing ou ton duel a fait avancer le collectif, j'aime bien. C'est ça, Sébastien Haller, ça le résume bien, cette phrase?
Bon, je crois que c'est ce qui le résume le mieux. Au-delà de sa qualité de footballeur, c'est un homme vraiment exceptionnel qui parfait le joueur. L'un ne va pas sans l'autre. Et dans les premiers échanges, avant même de pouvoir l'avoir parmi nous, avec les éléphants de la Côte d'Ivoire, dans les échanges, on sentait toute la puissance des mots qu'il utilisait et la recherche toujours du collectif avant sa petite personne. Et c'est ce que j'ai remarqué très rapidement chez lui.
Hervé. Oui, bonjour Patrice. Félicitations pour le Cameroun. Hein.
Avec un doublé de Sébastien Haller.
Voilà ce que j'allais dire. C'est que c'est pas un inconnu là dont on parle en équipe nationale. Et je voulais savoir comment il était humainement un peu dans ce groupe, parce que c'est quelqu'un qui est venu assez récemment finalement. Et comment il a réussi à intégrer cette équipe des éléphants?
Ça s'est fait vraiment naturellement et le message avait été très clair. J'ai été nommé le 3 mars 2020 à la tête des éléphants. Et 3 jours après, j'étais à Londres pour voir Arsenal contre West Ham. Il jouait à l'époque à West Ham. Donc j'avais pu aller rencontrer Nicolas Pépé et puis Sébastien Haller. Donc deux choses différentes. Nico qui était déjà avec les éléphants et puis Sébastien, c'était un échange. J'avais pu le suivre déjà en 2014 lors de ma première venue avec Hervé. J'étais allé le voir à Auxerre. Il jouait à l'époque avec les jeunes catégories des équipes de France. Et il m'avait déjà interpellé parce que c'est un gabarit, ça paraît parfois dans ses déplacements un peu lourd, mais ça reste un vrai attaquant qui a une belle accélération, qui se déplace très bien entre les lignes, dans les intervalles, dans les espaces. Et donc vraiment, le discours avait été très simple. C'était voilà Seb, je te suis depuis 2014, je viens d'arriver, de revenir en Côte d'Ivoire à la tête ce coup-ci. Ton profil m'intéresse, je sais que tu es binational. L'équipe nationale, en fait, c'est un choix du cœur. Donc, je te laisse choisir. Rappelle-moi, mais voilà, les échéances ici, je te propose un double objectif. C'est la prochaine CAN, il faudra se qualifier. Et puis, essayer d'aller chercher une qualification au Qatar 2022, à la Coupe du Monde. Et c'est après quelques semaines, quelques mois qu'il m'a rappelé et qui m'a dit, coach, j'ai bien réfléchi, je suis prêt. Je suis prêt à porter ce maillot orange. C'est le choix du cœur. Et en fait, lorsqu'il est arrivé, on a toujours un petit peu l'appréhension de se dire, les binationaux, quand ils arrivent dans leur pays d'origine, est-ce que vraiment ils vont avoir la même culture, la même approche? Ça s'est fait tout naturellement par son professionnalisme, déjà dans la salle de soins, de venir, de discuter avec tout le monde dès les premières minutes de son arrivée. Et puis, je crois que c'est surtout sur son pas de danse qu'il a été adopté par tous les Ivoiriens. Il a su danser le zouglou, le coupé décalé et toutes les danses locales et il s'est adapté parfaitement. Mais c'est un réel plaisir de l'avoir sur le terrain, dans un vestiaire, toujours le bon mot, toujours au service du collectif et ça me plaît beaucoup.
Marc, vous, l'ancien attaquant, forcément, vous avez un œil par rapport à ce poste-là. Quelle qualité vous lui trouvez à Sébastien alors?
Je suis déjà surpris qu'il ne soit pas, pour moi, dans un plus grand club que ça, parce que même en Angleterre, ça avait fonctionné un temps, puis après, il n'était pas forcément titulaire. Après, il faut savoir que sur le match de hier soir, ce qui était intéressant, c'est que le Sporting joue à trois derrière. Mais quand vous avez Anthony d'un côté, quand vous avez de l'autre côté Tadic, qui sont capables en un contre un d'éliminer, là, vous laissez à l'heure un contre un. Avec la masse qu'il a, la présence qu'il a, il vous ruine, hein, il vous massacre, hein, faut le savoir. Alors les buts qu'il a mis, les gens disent « Ah, mais c'est facile ». Non, mais c'est pas facile, il faut avoir l'intelligence de jeu de se trouver là à ce moment donné. Et quand il met le poteau, sa petite semelle, mais c'est juste l'instinct de dire « Peut-être qu'il va revenir ». Ouais, il revient, et à l'arrivée, ça fait ça. Et dans un jeu où l'Ajax, ça joue, entre guillemets, on a parlé de Giroud, 4-3-3, ouais, et ça centre pour un joueur qui lui
formé à Auxerre, Sébastien.
Voilà, et qui lui est capable d'être le point fixe et de vous aider et de recevoir des centres avec la taille qu'il a. Mais ben je pense qu'il peut marquer des buts et... avec sa sélection et avec l'Ajax, c'est pas fini à mon avis.
Et dans un style de l'Ajax, un peu on va dire football total, ouais, ou en tout cas beaucoup plus collectif peut-être que ce qui se faisait à West Ham où il jouait d'ailleurs peu.
C'est vrai.
Sans doute ça lui convient beaucoup mieux, je pense, comme style d'équipe que ce qu'il a pu voir en Angleterre.
Patrice, il fait partie à 27 ans, il fait plus partie des jeunes dans un effectif, mais il est récent dans cette génération de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous sentez qu'il a envie de prouver plus, Sébastien Haller, justement, de par son âge, cette éclosion un peu tardive et son arrivée tardive en sélection?
Prouver, je dirais pas que c'est le mot, c'est vivre des émotions. Ce qu'il m'a dit. Bon, à 27 ans, il a quand même roulé sa bosse. Après Auxerre, il était parti en Allemagne où il a été, il a brillé dans ce championnat de Bundesliga. Il était ensuite parti en Angleterre, donc aujourd'hui à l'Ajax. Pour lui, la notion d'équipe nationale, c'est honorer un pays, un maillot, ses origines et prendre du plaisir parce que c'est une équipe nationale, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas là où on va venir forcément chercher les plus gros contrats, mais par contre, dans nos échanges, c'est là où parfois on peut vivre les plus belles émotions. Faire une Coupe du Monde, c'est pas rien, donc c'est son objectif suprême avec l'idée de connaître une Coupe d'Afrique. Voilà, et je me souviens, lors de ces deux premières sélections, on jouait Madagascar, qui, il y a quelques mois, était quasiment sur le toit de l'Afrique, puisqu'ils étaient dans notre poule, ils étaient leaders. Et sur ces deux matchs, il avait marqué, lors de son premier match, un but. Et à l'extérieur, il avait su faire les efforts. Et au retour, il m'a dit, coach, juste merci parce que je vis un football différent. Et c'est vrai que c'est complètement différent, mais ça fait du bien. Parce que voilà, l'Afrique reste l'Afrique et c'est quelque chose d'autre. Donc chaque fois, lorsqu'il prend l'avion pour venir en Afrique, il sait qu'il va avoir un autre football sur des terrains pas toujours évidents. Mais par contre, un public amoureux du football. Donc voilà, c'est la recherche vraiment de sensations fortes. Et pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Et je lui souhaite et je nous souhaite de nous amener encore beaucoup de buts.
Hervé. Oui, ce qui est assez impressionnant, je trouve, moi, chez Sébastien Haller, et Patrice, je pense pas que tu me démentiras, c'est cette capacité à s'être intégré aussi vite. Parce que c'est pas simple, hein. Quand vous venez, effectivement, vous pouvez être un très bon joueur en Europe, sur des pelouses qui sont différentes, on va dire, dans des conditions de jeu très, très particulières. Et ben, souvent, il faut un minimum d'un temps d'adaptation, hein, pour pouvoir impacter tout de suite dans son équipe nationale. Et là où Haller, je trouve, a été très, très fort. Alors, c'est déjà, il a marqué pour son premier match, c'est pas rien, hein. C'est pas rien, parce que tout de suite, ça l'a imposé, même aux yeux du public. Il voit rien en se disant tiens, parce que tout le monde l'attendait, et quand il est arrivé, il marque. il poursuit sur sa série. Hein. C'est un joueur qui est devenu déjà très important en équipe nationale. Et moi, c'est cette capacité d'adaptation, et on le comprend bien finalement avec la manière dont le décrit Patrice, c'est-à-dire que c'est sa manière d'être venu dans cette équipe avec beaucoup d'humilité, avec la volonté justement de vivre des émotions avec tous ses nouveaux copains, et ça a permis d'avoir un impact tout de suite. Mais c'est plutôt rare, hein, je ne sais pas si tu as cette impression, de voir un joueur aussi vite, surtout attaquant, parce qu'un défenseur, à la rigueur, entre guillemets, il y a une forme de simplicité, si vous voulez, à rentrer dans une équipe. C'est un petit peu plus facile. Mais un attaquant, il faut quand même s'adapter au jeu des autres, s'adapter au terrain.
Et tout le monde t'attend, en plus.
Et en plus, c'est attendu, parce qu'on disait, tiens, Sébastien Allaire, qu'est-ce qu'il va faire? Et ça pour moi, c'est l'un des grands points positifs de cette arrivée.
C'est vrai. Après, je dirais qu'il y a cette double image de pression attendue par tout le monde, mais en même temps, il est arrivé dans un moment où il y avait le Covid, où on jouait dans des stades vides, où on a été un petit peu privé de football. Et en fait, il n'y a pas eu cette pression sur lui de dire bon, mais est-ce qu'il va effectivement arriver après l'ère Didier Drogba et puis peut-être Jonathan Kodja, Wilfried Bonny, etc. Est-ce qu'il va de suite prendre la place? Il n'y a pas eu cette impatience-là ici. Ils étaient heureux de voir un binational qui ait fait le choix du cœur. Il est arrivé aussi avec son collègue Willy Bolly, parce que j'avais eu pareil le même discours avec Willy Bolly de Wolverhampton. Ils s'étaient retrouvés à Auxerre tous les deux. Donc ils sont arrivés tous les deux au même moment. Et ça a vraiment amené dans cette équipe nationale. Quand je dis un plus, c'est qu'ils ont amené une certaine sérénité, parce que ce sont des joueurs que tout le monde a accepté. Et même avant même qu'ils n'arrivent, j'en avais parlé moi avec mes joueurs cadres de l'équipe nationale. Et en fait, ils étaient tous unanimes en disant oui, ces deux personnes-là vont forcément nous apporter quelque chose. Donc, il y a eu cette attente, mais en même temps, il n'y avait pas cette pression de suite de dire bon, il faut qu'il marque, ça y est, il faut qu'il soit l'après Didier Drogba ou autre.
Il a été. Adoubé par les cadres. Est-ce que ça fait déjà de lui un cadre, cette réussite qu'il a en club et aussi en sélection?
Mais ce qu'il dégage, c'est comme le jeu Tetris, vous allez certainement rigoler, mais l'image, c'est qu'il s'est emboîté dans un collectif. Et lorsqu'il arrive, on a tous l'impression, lui, Willy Bolly, que ça fait déjà des dizaines et des dizaines de sélections, alors que ce sont des joueurs nouveaux. Si on regarde, ils doivent avoir entre 7 ou 8 sélections, c'est pas beaucoup, mais ils se sont vraiment parfaitement intégrés, et même au rythme du football africain, c'est-à-dire que voilà, ils arrivent, ils sont pas perdus, ils ont de la famille ici, ils sont intégrés, ils aiment le pays, ils connaissent, et donc c'est comme s'ils avaient toujours joué pour cette équipe nationale, donc c'est vraiment un plus. Mais je pense que c'est surtout lié à nos échanges qu'on a pu avoir longuement, où en fait, j'ai jamais mis la pression aux joueurs de dire « il faut que tu viennes, on a besoin de toi ». C'était de dire « voilà, ton profil m'intéresse, mais à un moment donné, l'équipe nationale, c'est toi qui dois le sentir. C'est toi qui dois le sentir et c'est lui qui m'a fait le signe. Il m'a rappelé, il m'a dit « coach, je suis prêt ». Et à partir du moment où il a dit ça, il a activé pour faire le changement de nationalité sportive, les passeports, etc. C'est lui qui a fait vraiment les démarches. Je me souviens, c'est la petite anecdote, il s'est retrouvé à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Londres. Il me dit, j'avais ma casquette, je suis passé comme une personne lambda, je suis resté 3 ou 4 heures à l'ambassade. Alors qu'il était à West Ham. Mais c'est une petite anecdote magnifique. Mais ça, et ça, en fait, c'est Sébastien Allaire. C'est la simplicité. Il ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Par contre, c'est un attaquant vraiment qui dont j'ai besoin, dont l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a besoin et qui m'apporte beaucoup de bonheur aujourd'hui.
Bon, le gros avantage, c'est que maintenant, il passera certainement moins de temps à faire ses visas à partir d'aujourd'hui, Marc.
Exactement, mais Marc disait quelque chose de super. Bonjour, Marc.
Bonjour.
J'ai regardé, bien sûr, le premier match de Cristiano Ronaldo, où son premier but... On voit très bien que les défenseurs adverses subissent un petit peu, alors que lui, il est à l'affût de voir si le gardien va relâcher. Et donc, j'avais bien regardé les images, on voit le défenseur surpris, alors que Cristiano Ronaldo a déjà fait ce pas en disant « s'il relâche, je suis là ». Et bien, Sébastien a un peu cette roublardise. Voilà, il est toujours là. Et même dans les entraînements, tout ce qui est dans la surface, il est toujours en train d'être à l'affût, Voilà. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui ne se travaille pas toujours. C'est inné de sentir les choses. C'est
le
inné.
Sens du but.
Après, voilà, après mettre la semelle hier soir au lieu de mettre peut-être le plat du pied qui aurait fait que le ballon monte, ça c'est après peut-être le travail, le talent, le génie, mais il est là. Et en fait, ce but-là compte pour beaucoup.
Marc, et ne pas oublier qu'il n'a que 27 ans. Moi, à 27 ans, je ne courais plus, je volais, mon cher Hervé, tellement que j'étais bon.
Oh là là, je me souviens pas, ça. C'est bizarre.
Non, mais Hervé, tu te rappelles pas, tu étais un petit journaliste, tu démarrais, t'as évolué. Grâce à moi, t'as évolué.
Et j'aurais aimé seulement débuter quand t'avais 27 ans. Malheureusement, j'étais déjà dans la carrière.
Non, mais plus sérieusement, même s'il arrive depuis quelques semaines, il est là, il a très peu de sélection, il risque d'avoir le meilleur de lui. Et là, avec ses 4 buts, il y a des signaux d'un coup. Ah oui, il est là. On va s'intéresser à lui. Et 27 ans, pour moi le meilleur du footeux. Donc ils vont avoir ce qui se fait de mieux, à mon avis.
Et c'est un jeune 27 ans. Parce qu'en fait, l'âge ne veut pas dire grand-chose. Ça dépend du passé que vous avez. Un joueur comme Messi qui a débuté au très haut niveau à 17 ans, qui faisait ses 3 matchs par semaine à partir de 17-18 ans. Thierry Henry, qui à 28-30 ans était un peu fatigué, logiquement, parce que à partir de 18-19 ans, il jouait Ligue des Champions le mercredi, championnat, toutes les sélections. De lui, c'est pas le cas d'Allaire. Il n'avait pas de sélection, donc il n'avait pas de match durant les trêves internationales. Ils n'avaient pas de match de Coupe d'Europe.
C'est vrai.
Donc lui, il a fait un match par semaine pendant très longtemps. Là, aujourd'hui, c'est un joueur neuf, comme Drogba.
Et s'il a une bonne hygiène de vie, effectivement, il peut durer très longtemps.
Exactement. Drogba est arrivé en Ligue 1, ne l'oublions pas, à 24 ans. C'est 23 ans et demi.
Quant à son intégration, il faut quand même préciser, s'il s'est fondu aussi vite que dans le groupe ivoirien, il a connu aussi, parce qu'il a été sélectionné beaucoup en équipe jeune, en équipe de France. Donc il connaît aussi la notion de rassemblement. Ça compte aussi. C'est pas comme un joueur qui n'a jamais eu de sélection.
Maintenant qu'on a parlé du présent de Sébastien Haller, Patrice, une dernière question. Il reste sur une série assez démentielle de 8 buts en 3 matchs. Ça a commencé avec vous contre le Cameroun, puis en première division néerlandaise et enfin en Ligue des Champions. Comment dupliquer cette réussite avec la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous allez devoir vous inspirer de ce que fait l'Ajax?
ça serait génial de pouvoir avoir un jeu aussi fluide que l'Ajax avec si peu de temps, parce que malheureusement en équipe nationale souvent on s'entraîne 2 fois avant le premier match, donc c'est très réduit, mais c'est quelqu'un de généreux. Déjà on parlait tout à l'heure des efforts, et souvent je lui dis canalise tes efforts, parce qu'il est tellement généreux. Sans le ballon, il fait beaucoup d'efforts qu'il laisse beaucoup d'énergie, et c'est vrai que c'est en ça qu'il faut qu'il arrive à peut-être progresser avec nous, parce qu'on se voit moins souvent. C'est souvent lui le joueur qui va déclencher le premier pressing à la perte de la balle, et on s'efforce à essayer de le suivre. Donc voilà, mais oui, on va essayer de faire en sorte qu'il puisse marquer des buts en lui donnant des ballons. Je pense que au-delà de nous comparer à l'Ajax, ça serait prétentieux, c'est de dire ce que je demande à nos joueurs, de lui donner des ballons. Jean-Yves Rarquoissi lui donne un ballon, non pas un centre, mais un ballon dans la profondeur sur le deuxième but contre le Cameroun, qui est remarquable. Mais il le fait parce que Sébastien force l'appel, force le ballon à venir, parce qu'il fait un superbe appel entre les deux lignes. Donc je pense que c'est un garçon qui demande le ballon, il faut lui donner ses ballons, et je pense qu'il va, en transformer beaucoup en but. Donc voilà, s'inspirer de ça. Et au-delà des 8 buts qu'il a pu marquer sur les 3 derniers matchs, le match avant qu'il n'arrive, il n'avait pas réussi à marquer de but. Son coach à l'Ajax l'avait laissé pour qu'il essaie de marquer, mais je crois qu'il était à 3 ou 4 buts en 2 matchs aussi. Il avait fait 2 doublés, donc c'est quasiment 12 buts en 6 matchs, 7 matchs, donc c'est énorme.
Ça, pour la CAN, c'est bien, 12 buts durant la CAN, ça devrait être pas mal. Ça devrait amener la Côte d'Ivoire assez loin, à mon avis.
Mais écoutez-moi, si vous avez la feuille, je signe de suite.
Et avant la CAN, il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde début octobre et la double confrontation face au Malawi. On vous souhaite évidemment tout le succès possible, Patrice Baumel, avant de vous retrouver à la CAN au Cameroun. Merci Patrice d'avoir participé à ce Radio Foot International, c'est toujours un plaisir.
Merci Patrice, on va suivre.
Merci, bonjour à tous et à très bientôt.
Merci encore, allez, on va prendre maintenant la route dans le field.
Allez, Alexander Arnold, 37 apparitions en Ligue des Champions, un but inscrit, Anderson, un but. Oh,
capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, qui donne l'avantage à Reds, 3 buts à 2, la frappe elle est chirurgicale, la frappe elle est canon, et voilà Liverpool qui reprend les commandes de ce rendez-vous.
Ça a été le match le plus spectaculaire après City Leipzig et Sporting Ajax. Liverpool-Milan, il se passe toujours quelque chose dans un Liverpool-Milan. Il n'y avait pas Sadio Mané au coup d'envoi, mais il y avait Mohamed Salah, buteur, et les Reds s'en sortent sur le fil. But du 3-2 signé Henderson à la 69e minute. Alors sans Ibrahimovic, blessé Giroud sur le banc et entré à l'heure de jeu, avec un milieu qui n'a pas fait un gros match non plus du côté de Milan, hein, la paire Ismaël Benacer, Franck Kessié un peu mis à mal. Mais ces Milanais, ils ont posé des problèmes à Liverpool, Hervé.
Bah, bizarrement, alors j'ai regardé ce match-là avant de regarder le PSG, que j'avais enregistré bien sûr, bizarrement, ils ont été en immense difficulté, Milan, pendant une mi-temps. Mais alors, ils ne voyaient pas le jour, étouffés totalement par les joueurs de Liverpool, et ils ont deux contre-attaques en fin de mi-temps, et mènent 2-1. Et mènent 2-1. Donc ça paraissait absolument incroyable, parce qu'on a vu un Liverpool là en mode combattant. Hein. C'était assez impressionnant la manière dont ils ont étouffé les Milanais. Maignan arrête un pénalty.
Énorme, il est énorme en première mi-temps.
Et énorme Maignan en première période, parce que arrête un pénalty, là en l'occurrence.
Et après, t'as deux buts derrière en plus.
Deux buts derrière. Et alors, moi, Liverpool m'a impressionné. Là où j'ai trouvé intéressante l'équipe de Milan, c'est de ne pas avoir cédé. Parce qu'à un moment, quand vous êtes en telle difficulté, il faut encore avoir la capacité à sortir. On voit Leao sur le premier but qui fait un effort incroyable pour semer tout le monde. Et puis après, centrer. Et puis, il y a une reprise de Rebic. Mais franchement, Milan a montré qu'il avait du caractère, qu'il revenait en Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier que c'était en 2014, la dernière. Et a montré que c'était encore un club sur lequel il fallait compter, peut-être pas pour gagner la Ligue des Champions, mais ça restait quand même un club de haut niveau. Et Liverpool a frappé à la porte, parce qu'on parle beaucoup des autres équipes, dire attendez, on est encore là. Parce que Van Dijk jouait pas, Mané jouait pas.
C'est ça, c'est le pouvoir de cette équipe, parce que quand on voit Milner sur le banc, Van Dijk sur le banc, Origi qui démarre titulaire, qui fait la petite louche qui va bien, en fait, cette équipe-là, elle est interchangeable encore une fois. Parce qu'Origi, la dernière fois que titulaire, c'était quand ? C'était il y a très longtemps. Mais par contre, quand il joue, peut-être tous les deux ou trois mois, tant je suis l'Angleterre et Liverpool, ben il réapparaît, c'est comme s'il jouait tous les matchs. Dans l'état d'esprit, la mentalité, il y a tout qui va bien. Mais après, c'est vrai que Matip et par rapport à Van Dijk, ils ont des repères entre eux que là, Gomez, ils n'ont pas eu. Gomez n'a pas eu. Mais bizarre. À l'arrivée, c'est un match de dingue. C'est Henderson qui marque le troisième but, me semble.
Magnifique but. Magnifique but.
Sur une reprise demi-volée.
Voilà. Et puis, il se passe quelque chose. Pour aller en field, il se passe des choses. C'est toujours des choses. Et ça ne s'arrête pas. Quand on dit, nous, on a parlé de 2005, on a montré un retour à la télé. Vous vous rappelez, là-bas, ils étaient encore en 2005. C'est-à-dire que là, hier soir, tous les supporters pensaient à 2005 et tous les joueurs étaient habités par ça. Et pourtant, ils ne l'ont pas vécu. Mais ça donne ça et ça donne de la folie.
Jean-Philippe. Ce qui est intéressant sur la mobilisation effectivement de tout l'effectif, et ça c'est intéressant parce que on reconnaît bien le management de Klopp là-dessus, où il arrive à mobiliser ses joueurs.
Tout le monde est concerné.
Mais c'est de le faire sur la durée, parce que c'est pas sa première année à Klopp. Ça fait combien maintenant, 4 ans,
plus de 3 ans et demi.
C'est ça. Donc, en général, c'est typiquement le laps de temps là, c'est 3-4 ans où un coach s'use, où le discours du coach s'use, où les recettes sont plus les mêmes, où l'effectif a un peu changé, il y a une démobilisation. Voilà, on est souvent à fin de cycle. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il arrive à garder son effectif mobilisé sur un objectif qui est évidemment la conquête de la Ligue des Champions, parce que Liverpool peut pas annoncer autre chose. Et ça marche, quoi. Et ça marche encore. Et ça c'est vraiment intéressant, parce que on va voir jusqu'à où ça peut durer. Mais pour l'instant, c'est quand même, parce que le match, c'est vraiment un match pièce. Hein. Il domine outrageusement. Il se retrouve mené 1-2 à la mi-temps. Faut trouver les ressources derrière. Hein,
pour début de deuxième mi-temps, d'ailleurs, les Italiens mettent un but, mais il est hors jeu. Tout à fait normal. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais enfin, un petit mot pour nos auditeurs africains quand même. Mohamed Salah a été assez énorme. Hein. Et Naby Keïta a été très très intéressant. Il a fait une très très bonne rencontre. Très, très présent au milieu, très technique, fluide. J'ai trouvé vraiment, vraiment bon. J'espère que c'est son année, parce que le nombre de blessures qu'il a eues l'ont vraiment handicapé ces derniers temps.
Et puis côté Milanais, il y a un homme qui ressort, Mike Maignan. Très vite, messieurs, futur numéro 1 de l'équipe de France.
Ah, je l'espère. Par contre, Lloris et Mandanda, c'est autre chose, mais Lloris, il est encore là pour un moment. Ouais. Donc, il faut qu'il s'arme de patience et qu'il continue telle prestation, et que peut-être on verra de belles choses. Mais s'il continue comme ça, c'est énorme.
En tout cas, il continue à décourager les attaquants, et décidément, les pénaltys sont sa spécialité. À Mike Maignan. Merci.
Incroyable.
Marc
Libra,
qui aurait marqué ce pénalty?
Moi, mais bien sûr.
Évidemment.
À 27 ans.
À 27 ans.
Quand Hervé Pelot était très jeune journaliste, il rentrait pas dans le sable quand jouait.
Et je peux te dire qu'à 27 ans, j'aurais été gardien, tu marquais pas.
Merci Hervé, merci Jean-Philippe Bouchard. C'est la fin de ce Radio Foot. écoute. Merci à Maestro Salerno et Pierre-Olivier Guérin. Demain, place au Café des Sports et au retour de la Dame. D'ici là, amusez-vous bien. Appel sur l'actualité.